Il fait chaud en bas, ça a l'air. Venez-vous en haut. Bien, c'est la vie. Fait chaud, fait froid. Hein? Retournez, s'il vous plaît, dans l'Apocalypse, chapitres 4 et 5. C'est notre troisième semaine. On a divisé 4 et 5, la gloire du trône de Dieu, ensuite la gloire de l'agneau. Et on est arrivé à un temps dans notre étude où c'est le temps de parler de l'eschatologie. Un mot, en fin de compte, qui veut dire eschatos, qui veut dire dernier, et logia, qui veut dire discours. On parle des choses de la fin. Et juste avant le chapitre 6, lorsque, souvenons-nous, le chapitre 4 et 5, nous sommes dans les cieux et Jean nous ouvre une porte et nous révèle, à fin de compte, un drame qui se passe dans les cieux. Et celui qui est là, l'agneau, le lion de Juda qui s'en vient, prend le livre qui est le titre de propriété de la planète Terre et, rendu au chapitre 6, on redescend sur la Terre dans les événements historiques futurs. Un principe. Tout système théologique comporte son eschatologie. Que ce soit les témoins de Jéhovah, que ce soit les catholiques, les mormons, ils ont tous une théologie, c'est-à-dire une science d'interprétation des Écritures qui dit « voici ce que dit la Bible ». Et en même temps, ils ont une chronologie des événements. Et c'est pour cela qu'à l'Assemblée du Cap, nous avons aussi une eschatologie que nous enseignons depuis plus de 50 ans. Nous sommes rendus là et je me souvenais cette semaine que c'est la deuxième fois, en 96, on avait enseigné l'Apocalypse et c'est moi qui avais fait ces chapitres 4 et 5. J'aimerais, comme préambule, vous dire que partir de la semaine prochaine, lorsque Douglas va entreprendre les chapitres 6, on va s'en aller ensemble dans l'Apocalypse. C'est une machine à regarder ce qui se passe dans le futur. On embarque dans cette machine-là. Et je pensais au gars qui est la machine à avancer dans le temps. Là. Et puis, on va voir devant nous là, se dérouler des affaires. Et il y a cinq doctrines principales qu'on va parler à partir du chapitre 6. La seconde venue du Messie, les résurrections, parce qu'il y en a deux, heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Il y a les jugements, le millénium et l'état final. Quel eschatologie. Afin de compte, toute cette histoire, tout ce qu'on va voir dans l'Apocalypse, on va toucher ces sujets-là en s'en allant au cours des semaines. Il y a sept vérités dans le chapitre 4 et 5 qu'on a vu dans les deux dernières semaines. Sept vérités. Dieu est saint, Dieu est éternel, Dieu est le Créateur, Dieu est le Tout-Puissant, Dieu est venu racheter l'humanité, Dieu le Rédempteur est digne de prendre le livre, l'acte d'acquisition de propriété de la planète Terre. Dieu le Rédempteur est l'ultime propriétaire de sa création. C'est cette vérité qu'on a vue lorsqu'on a regardé ensemble les chapitres 4 et 5 des deux dernières semaines. C'est-à-dire, Bethel est venu la semaine passée, mais en arrière de Bethel. J'ai cinq questions pour vous ce matin. Et plutôt pour moi. Parce que je vais tenter, par la grâce de Dieu, de répondre à ces cinq questions. Et c'est des questions qui sont importantes. Où sommes-nous dans le plan de Dieu pour l'Église et Israël? Où sommes-nous? Si vous arrivez à Place Versailles, si je ne me trompe pas, il y a 225 magasins. Ça se peut-tu? Bon, au-dessus de 200. Et puis là, vous arrivez là, puis là, il y a une place où il y a une belle charte. Et là, on vous dit où vous êtes. Vous arrivez d'un centre d'achat que vous ne connaissez pas trop, puis je vous dis que c'est conseillé d'aller voir ça. Vous avez un paquet de magasins dans le centre d'achat, il y en a au-dessus de 200. Vous avez besoin de quelque chose, vous voulez savoir par quelle porte vous avez entré, ça vous prend un GPS, magasinage, centre d'achat, où on va vous dire « t'es là par rapport à là ». Et là, on va voir, Et là, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis le doigt dessus. L'étoile est presque effacée. Une étoile. Puis l'étoile nous dit où nous sommes. Ça ne nous dit pas tout ce qu'il y a dans les magasins. Mais ça nous dit que si tu suis certaines directions, tu vas arriver à telle et telle place. Ça identifie que nous sommes ici. Et lorsque nous posons cette première question, où sommes-nous dans le plan de Dieu pour l'Église et Israël? C'est une question légitime. N'oublions pas que l'Apocalypse est écrit par Jean. Grande persécution de l'Église. Des chrétiens découragés. Des chrétiens jetés en prison. Ça fait dur dans cette époque-là. Ils se posent toute la question, mais où sommes-nous rendus? Le Seigneur Jésus n'est pas encore revenu. Et dans le premier siècle, on entendait le Seigneur de Dieu vivant des croyants. Et on devrait l'attendre aussi de notre vivant en 2008. L'imminence du retour de Jésus-Christ, on va en parler plus tard. Donc, je vous propose de prendre une charte. Vous savez, le défaut d'une charte, c'est qu'il y a trop d'informations, on vient mêler. Je vous propose trois plis. Prenez votre charte. Vous allez la plier juste tout près de l'Église. Là, l'Église que nous avons mis environ l'an 30 de notre ère et le retour imminent du Seigneur, on ne le sait pas, point d'interrogation. Ceux qui n'ont pas de charte, on a des volontaires qui m'ont dit qu'on distribuait, à tous les cas. Pliez votre charte. Très important. Et vous allez voir, à mesure qu'on va avancer avec l'enseignement, vous allez changer de pli. Premier pli, à cette parenthèse, juste devant l'Église où le Seigneur va enlever son Église. Premier pli. Vous allez voir comme c'est simplifié quand c'est comme ça. Maintenant que c'est fait, un deuxième pli. Vous allez plier après la tribulation, la dernière semaine de Daniel. Pliez-la. Deuxième semaine de Daniel, ça va donner ceci. Et ça, c'est votre carte de route pour les prochaines semaines. Ensuite, un autre pli. Tout de suite après les sept ans, tout de suite après la tribulation, vous allez plier là. Tout de suite après, qui est l'avant-dernier pli. Et là, vous allez avoir Zacharie 14 et le millénium. Et naturellement, ça va vous donner le dernier pli, la révolte, Satan délié, le jugement dernier, le trône blanc, nouveau ciel, nouvelle terre. Et regardez maintenant, dépliez, puis regardez la ligne du milieu. Cette ligne ici, là. Voyez-vous la division de l'Apocalypse, là? On va suivre ça. On va s'en aller dans ça. Si je vous pose la question, l'étude de ce matin est où? Dans ça. L'étude de ce matin est dans le pli ici. Parce que Douglas va commencer l'étude du chapitre 6. C'est lui qui va introduire la tribulation ici. Voyez-vous? Moi, ce matin, je vous parle de l'eschatologie. Donc, je suis sur le pli. Même en grosseur que j'ai, je suis sur le pli. OK? Parce que moi, je reste attaché au chapitre 4 et 5 qui est dans les cieux. 6 à 19 est sur la terre. Moi, je suis dans le pli un matin. Et l'étude, vous allez voir un matin, c'est cette étude qui, d'une manière, finalise le chapitre 4 et 5 et met les vérités fondamentaux et aussi va ouvrir la porte au chapitre 6, lorsque Douglas va commencer avec l'ouverture des sceaux. Maintenant, vous allez serrer ça. Posez-vous la question. En 2008, nous sommes dans le temps de l'Église, entre ces deux parenthèses. Notre étude est dans le pli, le premier pli. C'est là qu'on est dans notre étude ce matin. À qui la terre appartient-elle? Qui est l'ultime propriétaire de la terre? Vous allez peut-être dire, bien, la terre appartient à celui qui l'a achetée. La terre appartient au contracteur qui construit des maisons. La terre appartient aux riches qui achètent des territoires. La terre appartient au cultivateur qui a acheté une terre puis il transmet sa terre de père en fils, de père en fils. Vérité très importante pour notre étude. La terre et l'humanité sont liées ensemble. Et vous allez comprendre pourquoi que le plan pour Dieu pour Israël et le plan pour Dieu pour l'Église n'est pas le même à cause des promesses de Dieu. Lorsque Dieu a créé, Genèse 1, 28 nous dit ceci, « Dieu les bénit et dit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-les et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meut. » Dieu a donné à l'humanité, à Adam et Ève, à l'humanité, Adam qui avait l'humanité dans ses reins, a donné la gérance de la terre. Dieu a confié la terre à l'être humain. Il ne l'a pas confié à Satan. Il ne l'a pas confié à d'autres bons anges. Il l'a confié à l'être humain pour un but spécifique. Dieu a promis, rendu à Genèse 13, 15, Abraham, Dieu a promis quelque chose à Abraham. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, Abraham, et à ta postérité, Israël, pour toujours. L'ultime propriétaire, Yahvé, l'ultime propriétaire de la terre, nous dit ceci dans Lévitique 25-23, « La terre ne se vendra point à perpétuité. » Pour Israël, il ne pouvait pas vendre la terre. Elle ne se vend pas, la terre. Elle a été donnée par l'ultime propriétaire de la terre à Israël, et elle ne peut se vendre, car le pays est à moi, dit l'Éternel, car vous êtes chez moi comme étranger et comme habitant. Je vous confie la terre, mais c'est moi l'ultime propriétaire. Abraham, je te donne tout ce territoire. Et là, vous allez comprendre la complexité d'Israël aujourd'hui. Le plan d'Israël, Dieu lui a donné un territoire. Il a fait une promesse. Et Dieu a donné à l'humanité la terre. Et l'humanité, Israël et tous les autres peuples ont multiplié sur la terre. Et Dieu a donné un agenda à Israël. Je vais mentionner rapidement ici les sept fêtes de l'Éternel. Dieu a donné des étapes. Il y avait la Pâque, la fête des pains sans levain, des prémices, la Pentecôte, des trompettes. Il y a Yom Kippour, jour de l'expiation. Il y avait la fête des tabernacles. Dans ces fêtes-là, Dieu a placé ces fêtes dans un calendrier. Et Dieu a donné un calendrier à Israël. Il a donné une terre à Israël. Et si on fait des plis encore avec cette charte, on voit que ça suit la logique de la création. Genèse 1, 1, 2 à 3 nous dit ceci, que Dieu créa en sept jours. Il y eut un soir, il y eut un matin. C'est la semaine de sept jours. Dans Lévitique 23, 9, 14 et Lévitique 23, 15, 22, on a la semaine des sept sabbats. Qui fait 49 ans, qui donne la cinquantième année, qui est la Pentecôte, la fête de la Pentecôte. Ensuite, on a dans la parole les semaines de sept mois, qui va nous donner, en fin de compte, les autres fêtes, dans Lévitique 23, 1 à 44. Et Dieu va nous donner aussi les semaines de sept années. N'oublions pas celle-là, elle est importante pour le prophète Daniel. Cette année, Lévitique 25, 1 à 7. Et Dieu a donné la semaine de 7 sabbats d'année qui donne 49 ans. Et là arrive un événement qu'on appelle l'année de la Jubilée. L'année de la Jubilée, frères et sœurs, c'est qu'il arrive à l'année de la Jubilée, c'est que ceux qui avaient acheté des terrains ou des esclaves ou des propriétés, ces choses-là, à la 50e année, devraient retourner la terre au premier propriétaire que celui à qui avait été assigné. Parce que Dieu avait donné à chaque tribu une portion de la terre. Et à la 50e année, on pouvait vendre les terres, les louer dans les 50 ans. Mais rendu à la 50e année, on devait retourner la terre. Alors, Lévitique 25-28 nous dit ceci, « Ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du Jubilé. Au Jubilé, il le retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. » Suivez-moi là. Une autre loi qui est importante, c'est la loi du Goël. C'est le droit de rachat. Belle histoire dans l'Ancien Testament de Ruth et Boaz. Ruth et Boaz, où Boaz avait le droit de rachat, même si ce n'était pas l'année de la Jubilée, la 50e année. Il y avait un droit de rachat qui était là. Et dans le droit du rachat, on pouvait acheter les terres qui avaient été confiées à Israël. Le Juif pouvait le vendre jusqu'à 50 ans, ou même le racheter s'il devenait prospère avant 50 ans. Mais à 50 ans, c'était le Jubilée, il devait le faire. Il y avait les esclaves vendus. Il ne faut pas être étonné, l'histoire nous dit que même les Juifs se vendaient eux-mêmes comme esclaves à d'autres Juifs. Et ce n'était pas l'esclavage là, à coup de fouette dans le dos nécessairement, c'était comme un employeur qui va, si vous voulez, accepter tel employé. Et même, il y avait une restriction qui disait que si un esclave est bien avec son maître, il allait près d'un arbre, puis on y poinçonnait l'oreille, le lobe de l'oreille, et ça, il devenait un esclave à vie. Parce qu'il était bien où ce qu'il était. Et il y avait ce droit de rachat. Suivez-moi là. 5 vérités parallèles avec ce qu'on vient de voir dans Apocalypse 4 et 5. 5 vérités parallèles qui démontrent que Jésus est le Goël de l'humanité. Première vérité, Dieu est l'ultime propriétaire de la terre et pas à vendre. Deuxième vérité, il a confié la terre à l'humanité dans le but de la cultiver et de la gérer tout ce qu'elle renferme. Troisième grande vérité, l'homme céda son droit sur la terre à un chérubin protecteur nommé Satan, un usurpateur qu'on a vu il y a 2 semaines. Quatrième vérité, le droit de rachat, le Goël, le Rédempteur, Jésus, Fils de Dieu, s'incarne et vient sur la planète Terre accomplir le prix du rachat de l'humanité. Et cinquième grande vérité des chapitres 4 et 5, le vrai propriétaire reviendra prendre ce qui lui appartient et accomplira sa promesse littérale à Abraham. Si les ennemis de Dieu pouvaient faire Dieu menteur, Dieu ne serait pas Dieu. Êtes-vous d'accord? Dieu, ce n'est pas un menteur. Il a fait une promesse à Abraham, il a donné un territoire, puis il a dit un jour, je vais te le donner. L'humanité s'est mise sous la domination des ennemis de Dieu, il a perdu son autorité, il s'est soumis. Et d'ailleurs, lorsque Jésus est tenté dans le désert, dans Matthieu 4:4, lorsqu'il va offrir à Jésus toutes les gloires et les possessions du monde, avez-vous remarqué que Jésus dit, « Non, non, c'est pas à toi, c'est à moi. » Non. S'il l'avait vraiment. L'usurpateur est venu nous enlever, nous les humains, le droit de gérer parce qu'on s'est rendu esclaves du péché. Deuxième question, pourquoi le chapitre 4 et 5 sont-ils la clé de l'Apocalypse? Et ça, c'est important de saisir ça. Parce que ça nous dit où est-ce qu'on est. C'est cette grosse étoile qui nous dit, on est ici. On est là. C'est la transition entre l'âge de l'Église et le jour de l'Éternel. C'est une transition claire, nette et précise dans la ligne de temps. Lorsqu'on regardait les sept églises de l'Asie, souvenez-vous, puis qu'on voyait devant nos yeux ces avertissements, ces compliments que Dieu donnait à des vraies églises de l'époque, on était sur la planète Terre. Lorsque Jean nous emmène à la vision du trône de Dieu dans le ciel et l'agneau glorifié dans le ciel et qu'on a lu les cinq cantiques dans le chapitre 4 et 5, on était dans les cieux où ce que le temps n'était pas là. Mais des événements se précipitèrent. Et Jean continue à nous donner les choses dans la suite des temps. Et à partir du chapitre 6 au chapitre 19, il y a le jour de l'Éternel. C'est pour ça que c'est important d'arrêter et de considérer le chapitre 4 et 5. Il y a une transition entre l'âge de l'Église et le jour de l'Éternel. Et il y a ce fameux rouleau avec sept sceaux, l'acte de propriété écrit en dedans et en dehors, qui sépare l'Église du jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, grand et redoutable, Daniel 27 nous dit, qui nous parle de la semaine de sept ans, trois ennemis, séduction, trois ennemis, grande tribulation, le jour redoutable de l'Éternel. C'est le sens strict et non pas le sens large que nous avons. Il y a aussi une autre expression que j'aimerais vous laisser ce matin. C'est les douleurs de l'enfantement. Une expression qu'on retrouve dans la parole, mais qu'on retrouve aussi dans le judaïsme. L'Arabie, ici, Siméon, nous dit ceci. « Que peut faire un homme afin d'être sauvé du temps des douleurs de l'enfantement du Messie? Qu'il vienne le Messie, mais laissez-moi mourir avant ces temps-là. » C'est un temps terrible. Un jour de jugement. Et je vous dis, lorsqu'on regarde 6 à 19, ceux qui vont être sur la planète Terre vont subir la colère de Dieu. Quel privilège qu'on a d'être en 2008 dans l'an de grâce. Dans l'an de grâce! Les douleurs de l'enfantement vont englober le jour de l'Éternel, les temps, des temps des troubles de Jacob, la grande tribulation, c'est tout englobé avec cela. C'est des expressions qui veulent nous transmettre quelque chose de sérieux, solennel, épurant. Grande vérité, l'Église, Israël n'est pas l'Église. Et si on n'a pas un bon cours d'herméneutique, c'est très difficile de distinguer entre les deux. On lit nos Bibles, puis on applique aux croyants ce qui s'applique à Israël. Et vice-versa. Dans l'eschatologie, pré-mille, pré-tribe, Israël n'est pas l'Église. Et d'ailleurs, c'est le point de controverse, là. La manière dont vous allez interpréter cela. Joël 1, 2 et 14 nous dit ceci. « Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. » Là, j'entrerai en jugement contre elle, au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage. Tu marques l'Église, mon héritage? Israël, mon héritage. Qu'elles ont dispersé parmi les nations, l'an 10 de notre ère, Titus. Et au sujet de quoi? Mon pays. Et le mon, c'est qui? L'Éternel, le propriétaire. Qu'elles se sont partagées. Parce qu'il y en a qui ont pris le territoire d'Israël. Et l'Éternel dit qu'il va arranger tout ça un moment donné. Ésaïe 13, 6 et 13 nous dit ceci. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent l'un l'autre avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici le jour de l'Éternel arrive. Le jour, quel jour de grâce, de paix, jour cruel, jour de colère et jour d'ardente fureur qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Et lorsqu'on va étudier ensemble 6 à 19, vous allez voir les mêmes choses. Je punirai le monde pour sa malice et les méchancetés, pour leur iniquité. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'ignorance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que leur faim. Je les rendrai plus rares que leur d'orphire. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente colère, ardente fureur. Excusez. Jésus va dire ceci, Matthieu 24, 21 et 22. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et qu'il n'y en aura jamais. Il n'y en aura jamais comme ça. C'est unique. Cette époque-là est unique. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais c'est à cause des élus. C'est qui les élus? Et voilà l'astinage, si vous la cherchez. Excusez, les yeux me brûlent comme du feu. Il fait chaud, hein? C'est qui les élus? Et c'est terriblement important de savoir que Rosenthal, puis un paquet de gars, je pourrais vous nommer, qui ont fait la démonstration que Matthieu 24 et 25 est au futur, il parle d'Israël. Matthieu est écrit à l'entour du temple. Et les élus, c'est Israël. La première couche d'élection de Dieu. Parce que Dieu a trois couches d'élection. Sa première élection parmi toutes les nations, Dieu a choisi parmi toutes les nations, il a choisi une nation, pas parce que c'est la meilleure, la plus grande, la plus forte, qui ont des belles oreilles chromées. Il les a choisis parce qu'ils aimaient, il a choisi Israël. Parmi Israël, deuxième couche de prédestination. Parmi les 12 tribus d'Israël, il a regardé les 12 tribus d'Israël, puis il a choisi quoi? Il a choisi une tribu, Juda. Et la troisième couche d'élection est tellement merveilleuse, c'est que Dieu regarde dans le monde. Et puis, il a fait une troisième élection pour son fils. Il a été lui chercher une épouse de juifs et de non-juifs pour faire l'Église. Et c'est ce qu'on appelle la parenthèse, l'an de grâce. Que c'est beau. La Bible, c'est une histoire d'amour. Et pour être honnête, c'est les soirs qui me font pleurer. Israël, Dieu abrège. En passant, je parlais avec Mark Straub, puis il me disait, il avait été en Israël, puis il m'a montré une photo de Petra, puis il disait, la plupart des chrétiens juifs disent que Dieu va cacher Israël fidèle à Petra. C'est vraiment impressionnant. On va en parler plus tard. Quatrième question, et Patino. Quelle est la destinée des enfants de lumière? Ça, c'est important. Moi, ça m'inquiète. si je ne sais pas ce que je m'en vais? Vous? Il y en a qui sont inquiets, hein? Savez-vous ça qu'il y a des gens, au travers des années, qui ont prédit la fin du monde, qui sont ramassés une grosse épicerie dans le sous-sol, parce qu'ils croyaient que le bug du l'an 2000 était pour faire apparaître le Messie sur le mont des Oliviers? Et je pourrais vous continuer à vous conter toutes sortes d'histoires bizarres pendant au moins 15-20 minutes. C'est important de savoir sur la charte, là, on est là, nous autres. Qu'est-ce qui arrive aux enfants de lumière? Moi, le jour de l'éternel, le jour de colère, le jour de jugement, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas être là. Personne dans sa tête normale va dire, ben, j'aimerais ça penser ça, ce serait le fun de voir descendre ça. Puis, on n'est pas à Hollywood, là. Parce que tout le monde ramasse un chèque quand ils ont fini de mourir 3-4 fois à l'écran. Non, non, non. Question. Réponse. Nous avons la bienheureuse espérance. Titre 3, 2-13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Épiphania. Manifestation. Rendre visible. Le voir. 1 Jean 3, 2, « Lorsque nous le verrons face à face, nous le connaîtrons comme qui nous a connus. » Et on le voit, il devient visible. Et c'est le même terme. Cette bienheureuse espérance. L'espérance de le voir face à face. Nous, dans l'art de grâce, nous avons cette merveilleuse espérance vivante, cette foi au futur. Ah, merci. Cette foi au futur. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 17, nous disons ceci. Et là, c'est un secret de famille, ça. Si vous n'êtes pas né de nouveau ce matin, vous n'allez probablement rien comprendre. Puis je vous invite à venir me voir après la réunion. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement, la pariosa du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Parce que les Thessaloniciens disaient, « Hey, on meurt! Mon frère dans le Seigneur, il est mort! Le Seigneur n'est pas encore venu! Qu'est-ce qui se passe avec lui? Comment se fait ça? » Et là, Paul va sécuriser les Thessaloniciens en leur disant ceci, « Troublez-vous pas. Ceux qui sont morts dans le Seigneur ne devanceront pas pour la résurrection de nos corps glorieux, 1 Corinthiens 15. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. » Et quand on prêche un service funèbre, qu'on sait que c'est un enfant de Dieu, c'est donc le fun de prêcher là-dessus. Parce que ça nous dit que c'est merveilleux parce que ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Pas sur le mont des Oliviers. Dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et verset 18 nous donne la conclusion. Consolez-vous donc par ces paroles. Mon mère, papa est parti. Mon oncle, ma tante, mon enfant. Nous ne devons pas devancer. Ils sont dans le repos auprès du Seigneur, comme Paul l'était dans Philippiens. Puis attendre la résurrection de leur corps spirituel comme nous, on va l'avoir. Mais en attendant dans l'an de grâce, on se console par ces paroles. Quand? C'est légitime, hein? Oui, mais quand qu'on va la rejoindre le Seigneur dans les airs? Quand le jour du Seigneur? Quand qu'on va la rejoindre le Seigneur dans les airs? Partout dans la parole, tout le monde est d'accord. Saignez vos reins, soyez prêts. Le Seigneur va venir, c'est imminent. Il n'y a aucune prophétie de l'Ancien Testament concernant Israël, j'aimerais le dire, l'affirmer, qui empêche Jésus de revenir à 11h40. Rien qu'empêche. Et là, Paul, dans le chapitre 5 de Thessalonique, qui continue le discours eschatologique, va continuer, puis il change de sujet. Puride dans l'original. Et des experts vont vous dire, et j'en ai vérifié plusieurs, que c'est évident que Paul vient de conclure par les paroles « Consolez-vous donc par ces paroles. » On a réglé le fait qu'on va rejoindre le Seigneur dans les airs, on a réglé le fait que ceux qui sont morts dans le Seigneur ne nous précéderont pas, mais ensemble on va rejoindre le Seigneur dans les airs. Maintenant, je vais changer de sujet parce qu'on est où? Il dit « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. » Et Matthieu 25, 36 nous dit quoi? Personne, lorsqu'on voit le Seigneur venir sur le mont des Oliviers, dans Matthieu 24, 25, qui concerne Israël, Jésus va dire à ses disciples, « Personne ne connaît le temps, le jour, ni l'heure, seul le Père. Car vous savez bien vous-même. » Et c'est là. Il ne parle plus de la rencontre dans les airs. Il parle le jour du Seigneur. Viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et elles n'échapperont point. Mais vous, frères, bien important, on l'a mentionné, on va pas le Seigneur les met, hein, Stéphane? Mais, vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Mais pourquoi? On ne sera pas là. Ça ne nous surprendra pas, on ne sera pas là. C'est ceux de la nuit qui sont surpris. C'est deux catégories que Paul est en train d'enseigner là. Vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Et nous ne dormons donc point dans l'instant où nous sommes rendus dans l'an de grâce. Mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'éveillent, s'enivrent la nuit. Qu'est-ce qu'on a là? À fin de compte, on a la même affaire que Matthieu 24, 37. Et 25, 1 à 3. On a cet avertissement à la vigilance comme croyant. À la vigilance. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant le casque de l'espérance du salut, cette foi projetée au futur. Car Dieu, regardez la clé là, verset 9, souligné dans votre Bible. Car Dieu ne nous n'a pas destiné à la colère. L'épouse de Jésus-Christ n'est pas destinée au jour terrible de l'Éternel, au jour terrible de jugement sur la terre, au jour de colère, au jour où ce que les gens vont dire, « Montagne, montagne, tombez sur nous! » L'Éternel ne nous a pas destinés à la colère. On est les enfants de lumière. On n'est pas de ce groupe-là. Mais la possession, c'est merveilleux, la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, on n'a pas le temps de parler des trois temps de salut, mais là, il parle du temps de salut où est-ce qu'on va être sauvé de la présence même du péché, avoir un corps spirituel fini. La lutte contre le péché qui si facilement nous enveloppe. Mais on voit le Seigneur face à face, on est avec lui, et tous ensemble, on reste avec lui pour toujours. Apocalypse 3.10 nous fait cette promesse. À cette Église avec laquelle on peut s'identifier. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et faites une étude sur le mot « habitant ». littéralement veut dire ceux qui tirent leur existence de la planète Terre seulement. J'aimerais vous rappeler pour conclure ces belles paroles de Jésus. Parce que je lui disais à moi-même, Michel, tu parles de jugement, puis du jour de l'éternel, puis de colère. Mais aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. À l'an de grâce 2008, ici ce matin, à l'Assemblée chrétienne du Cap-de-la-Madeleine, le Seigneur va répéter ces belles paroles qu'a dit à ses disciples qui étaient très troublés. Il va dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il n'y a pas rien pour les Juifs, mais pour les Grecs, les Romains, les non-Juifs. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Préparer une place à ses disciples. Et lorsque je m'en serai allé, lorsqu'il va, acte 1, retourne auprès de son Père, et que je vous aurai préparé une place, lorsque le temps sera venu pour prendre notre place comme épouse de Jésus-Christ auprès de lui dans le chapitre 4 et 5, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle belle promesse. Ce matin, ne quittez pas ce lieu sans accepter cette invitation du Seigneur Jésus qui vous offre et qui m'offre une place extraordinaire auprès de lui. Prions. Seigneur notre Dieu, c'est rassurant de savoir qu'on est encore en 2008, en l'an de grâce. Encore dans ces années où que la proclamation de l'Évangile est puissamment annoncée. La porte est ouverte. La route est tracée. Et encore, au moment où nous parlons, nous pouvons passer des ténèbres à la lumière. Du royaume de Satan au royaume de Dieu, le Père des Lumières. Aujourd'hui encore, nous pouvons décider d'accepter le grand salut de Jésus-Christ et placer notre foi seule dans le sacrifice seul de Jésus-Christ et naître de nouveau. Et d'avoir la paix intérieure, une joie d'appartenir à Dieu dans ces temps de grâce et savoir que nous attendons le retour de Jésus pour le rencontrer dans les airs et non la colère. Seigneur, parle à nos cœurs ce matin et qu'on puisse ensemble comme Église garder nos yeux fixés sur toi à la gloire de ton nom. Amen. Merci.